national du Pays de la Loire et les communes heureuses, qui est bientôt à Bref, le 2 février, si vous souvenez,
les
spécialistes du roi d'auteur et du roi voisin, j'ai pris des notes. ensuite, nous avons une communication de Marco Locascio du CMBV, qui est bibliothécaire donc, au CMBV, qui va nous parler des solutions de partage et de diffusion de partitions. Et ensuite, nous avons la BNF, représentée par Fabrice Mento, celle du service son dans le département son vidéo multimédia, SVM pour les intimes. Et qui nous présentera donc à la fois rapidement le département, mais aussi tous les enjeux autour de la valorisation et la diffusion des phonogrammes du domaine public qui sont consacrés à la VNF. Donc nous allons d'abord débuter par la présentation d'Agathe et de Pauline autour des ressources libres dans les orchestres professionnels et autour aussi d'un projet de coopérative entre orchestres sur les questions de diffusion de partitions et d'édition de partitions, voilà, avec des questions, vous allez voir, assez transversales autour du juridique. Voilà, c'est plutôt une table ronde autour d'expérience et au sens vraiment de même d'expérimentation. Parce que vous nous présentez à Agathe, la parole est à vous.
Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Malheureusement, je n'ai pas pu me libérer pour venir. Ça va, vous m'entendez bien? Non. Est-ce que comme ça va mieux? Ok, donc si je m'entends, c'est bien. Moi, j'ai pas pu venir hier, j'ai pas pu me libérer, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses passionnantes qui ont déjà été dites. Je voudrais, comme Sandrine, raconter un petit peu d'où je parle. Donc, je suis bibliothécaire d'orchestre. C'est un métier un petit peu niche, pas forcément très très connu, donc je vais vous faire un petit panel, pardon, pour ceux qui connaissent déjà le principe. L'idée, c'est qu'on est en fait sur un rythme extrêmement élevé de travail, c'est-à-dire qu'on est une quarantaine d'orchestres, entre 40 et 50 orchestres permanents en France. On a un rythme très élevé, c'est-à-dire que si je prends l'exemple de l'ONPL, on travaille là sur cette saison 25-26 sur 45 programmes différents à l'année, ce qui veut dire à peu près un peu plus de 170 œuvres symphoniques à préparer. Et quand je vous dis ça, c'est sans compter la musique de chambre et les concours. Donc on a en fait des programmes qui changent quasiment toutes les semaines. C'est un répertoire assez variable, hein. Ça va de la musique ancienne au contemporain. On a des orchestres qui sont plutôt sur des répertoires spécialisés. Nous, on est sur un orchestre symphonique, donc vraiment avec un panel très large d'interprétations. Et voilà, l'idée, c'est que les musiciens en fait, répètent en moyenne 2 à 3 jours, parfois un seul jour, avant de partir en concert. C'est un rythme tout à fait normal pour eux. Mais pour nous, en termes de bibliothécaires, alors on dit bibliothécaire, mais on pourrait s'appeler partothécaire. Je précise qu'on ne travaille sur absolument pas de fonds livres ou disques ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, on est vraiment sur la gestion d'un fonds extrêmement vivant, utilisé de manière bien intensive, comme vous pouvez l'imaginer. Donc en fait, le principe pour se fournir ces partitions, je vais vous faire ça en schématisant beaucoup, hein, il y a énormément d'exceptions, mais de façon globale, soit c'est du domaine public et à ce moment-là on peut acheter les partitions, soit c'est du domaine protégé et de façon globale on loue les partitions. Les locations de partitions se font majoritairement, en fait les éditeurs qui louent des partitions les louent principalement aux orchestres. Pour tout ce qui est orchestre amateur, chœur ou musique de chambre, la plupart de ces répertoires sont disponibles à l'achat. C'est une particularité auquel on fait face tous les jours, et donc on doit avoir une connaissance assez pointue du droit, enfin de l'aspect juridique des choses, pour déterminer un rythme assez intense que vous pouvez imaginer, ce qui est du domaine et ce qui n'en est pas. À ça s'ajoutent pas mal d'exceptions. En gros, on a parmi ces exceptions-là des éditeurs qui décident de louer des œuvres qui sont dans le domaine public. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est plus rentable. C'est assez simple, hein. Ils fabriquent un matériel qui va tourner dans le monde entier. On est face à des éditeurs qui travaillent littéralement avec le monde entier. Donc les matériels qu'on reçoit peuvent venir d'un peu n'importe où. peuvent avoir 20 ans d'existence. Parfois, on a des matériels qui sont dans des états assez délabrés parce qu'ils ont tourné beaucoup, ils sont très utilisés. Les musiciens les tournent beaucoup, les musiciens les annotent parfois beaucoup, etc. Donc on se retrouve avec des matériels qui sont parfois, on a des problématiques d'état, tout simplement. L'avantage pour nous d'acheter un matériel, c'est que si je vous parle un petit peu du montant, acheter un matériel, c'est entre 300 et 400 euros, il va nous faire une trentaine d'années dans notre fonds avant d'être inutilisable. Les partitions louées, je pense que c'est peut-être le seul objet au monde où c'est plus cher de louer un objet que de l'acheter. On est entre 500 et 1000 euros pour un concert, pour une œuvre. Voilà, c'est important d'avoir ces chiffres-là en tête pour mieux comprendre notre discours aujourd'hui. Donc c'est une économie extrêmement particulière. Parfois pour un concert, donc trois œuvres, qui va être joué peut-être 3-4 fois, on peut monter sur des budgets facilement jusqu'à 5 000-6 000 euros de partitions louées qu'on devra relouer la prochaine fois qu'on joue ce programme-là. Donc évidemment, ça pose des questions dans un contexte budgétaire extrêmement compliqué qui est le nôtre aujourd'hui. Pour la plupart, nous sommes des orchestres financés avec de l'argent public. Cet argent public, comme vous le savez, devient de plus en plus difficile à obtenir. On a eu des coupes budgétaires dans énormément de maisons. La mienne, vous en avez peut-être entendu parler dans la presse au niveau des coupes régionales des Pays de la Loire, mais on a eu également des baisses drastiques de deux départements. On a un orchestre qui est financé chez nous par l'État, la région, trois départements et deux villes. Chacun a une petite hauteur, mais donc quand on enlève deux ou trois de ces piliers-là, on se retrouve vraiment en danger. Face à ça, et l'ONDL n'est pas le seul orchestre touché par ces coupes-là, et je sais que les orchestres ne sont pas les seuls outils de culture publique à souffrir de cet état de fait, on se pose de plus en plus la question de réduction des coûts et d'économie circulaire, voire partagée. Il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser en amont quand je vous raconte un petit peu notre métier, c'est qu'on est dans un contexte de réseau extrêmement actif entre bibliothécaires d'orchestre. On a un réseau informel qui fonctionne depuis une vingtaine d'années, qui regroupe plusieurs pays même, parce que c'est un réseau francophone, donc on regroupe également des bibliothécaires d'orchestre de Suisse, du Luxembourg, du Canada, etc., etc., de Monaco. Et c'est un réseau extrêmement chaleureux et bienfaisant, parce qu'on s'entraide énormément, on a beaucoup de coups de bourre, comme on dit dans le métier, donc on est souvent en panique sur des matériels qui n'arrivent pas, ou des états tellement catastrophiques qu'il faut s'entraider à ce niveau-là. Et voilà, en tout cas, la culture du partage dans un monde qui peut sembler très clôturé, celui de la musique classique professionnelle, est vraiment là chez nous au niveau des bibliothèques. Du coup, c'est poser la question simplement de comment on pouvait s'entraider autrement que juste en se soutenant moralement. Et comme on est des bibliothécaires, on aime bien être dans le cadre de la loi, en fait, on aime bien faire les choses, on aime bien. Que les choses soient carrées et on a commencé à réfléchir à l'idée de pouvoir discuter en fait de cet état de fait. Donc on se retrouve en fait, pour résumer un petit peu le contexte actuel, on se retrouve avec une problématique d'un côté avec des éditeurs qui ont besoin d'être rentables, voire de faire de la marge, parce que voilà, ce sont des boîtes qui doivent rendre des comptes à des actionnaires, etc. Et de l'autre côté, des formations de services publics pour la plupart, qui se retrouvent avec des subsides de plus en plus bas. Et on a vraiment une problématique de discussion, en fait, de besoins importants de notre part. Donc, quelles sont les alternatives par rapport à ça? Justement, puisqu'on est ici pour parler de sciences ouvertes, je voudrais mentionner aussi quelques... En fait, nous, la problématique des orchestres, comme je vous l'ai dit, on a 2-3 jours de répète, on ne peut pas se permettre d'avoir des matériels où il faudrait vérifier... les matériels d'orchestre, c'est très sujet à faute. Il y en a beaucoup, c'est normal, il y a beaucoup de partitions, beaucoup de notes dans une œuvre, et c'est très compliqué avec différentes parties de pouvoir... on ne peut pas se permettre en répétition de perdre ce temps-là, de dire « Ah, mais là, est-ce que c'était un mi bémol ou un mi bécart ? » On n'a vraiment pas le temps, il faut que ça trace. Et donc, on est obligé, pour nous, d'avoir des sources qui sont extrêmement fiables et précises. Et il existe quelques, grâce à quelques personnes qui croient en la science ouverte et qui se sont penchées dessus, qui ont parfois dédié une grande partie de leur vie à ça, on a quelques pistes de ressources qui sont en accès libre et qui nous permettent justement gratuitement de pouvoir accéder à des matériels fiables. Donc je voudrais citer notamment Composer, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une équipe de principalement bénévoles qui travaille à faire connaître le répertoire de compositrices. et qui mettent à disposition sur IMSLP en licence d'usage libre des matériels qui ont été extrêmement bien gravés, avec beaucoup d'attention portée à la qualité du contenu. Voilà. On a également des répertoires plutôt dans, cette fois-ci dans la musique ancienne, avec pas mal de musicologues qui se sont penchés sur des questions, voilà, qui ont développé des matériels extrêmement sourcés. Je pense notamment à Nicolas So, donc peut-être que Marco nous en dira un mot tout à l'heure, parce qu'il travaille avec le CNDD, mais où il a, pendant pas mal d'années, proposé des matériels qui sont toujours aujourd'hui disponibles sur l'IMSLP et qui font référence sur ce type de répertoire. Donc ça, voilà, c'est des choses sur lesquelles on se replie parfois, mais il faut rappeler que c'est quand même la plupart du temps du travail bénévole et que c'est des types de répertoires qui sont extrêmement particuliers, compositrice dans un cas, musique ancienne dans l'autre. Voilà, nous, le cœur de notre répertoire, c'est plutôt du symphonique, donc de la musique un petit peu plus récente. On s'est posé la question, enfin, a fini par émerger face à ces difficultés de partitions trop chères, parfois en mauvais état, parfois avec des fautes qui ne sont pas corrigées, c'est-à-dire que ça nous arrive fréquemment, régulièrement en tout cas, de remonter des listes, des ratas aux éditeurs, sauf que pour eux, en fait, c'est pas rentable de corriger des matériels, et qu'ils vont plutôt faire circuler les matériels en comptant sur les orchestres et les bibliothécaires d'orchestre pour avoir corrigé à la main les matériels, et bah, finalement, ils profitent de notre travail de cette manière-là. Donc, on a cette problématique-là. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus... Mathématiquement, il y a de plus en plus de compositeurs du répertoire qui passent dans le domaine public, et donc de plus en plus d'éditeurs qui, pour continuer à garder leur chiffre d'affaires, décident, comme je vous le disais tout à l'heure, de continuer à louer des œuvres qui sont déjà dans le domaine public, ce qui nous, du coup, nous pose problème. Voilà. Je vais passer la parole à Pauline, qui va vous raconter un petit peu le projet qui est sorti de ce contexte, et puis les aspects juridiques qui en découlent.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, effectivement, je vais apporter un petit regard juridique sur le contexte que vient de rappeler Agathe. Est-ce que vous m'entendez bien ?
Oui.
Parfait. Alors, on est parti d'un constat, il y a déjà 3 ans, un constat juridique, pour le coup, qui touche aux relations contractuelles entre éditeurs de partition et formation musicale permanente, donc orchestre et opéra, et qui touche plus particulièrement à ce qu'évoquait Agathe, que sont les contrats de location proposés par les éditeurs aux formations musicales. Et ces contrats de location sont véritablement des contrats d'un âge qui n'existe plus, avec des stipulations très très archaïques, si je peux dire, et surtout une absence de volonté d'évoluer et quasiment de négocier. Qui, en droit des contrats, est quand même un petit peu étrange, en tout cas pour un juriste. Donc moi, je suis arrivée dans le secteur il y a environ 3 ans, à devoir mettre les mains dans tous ces contrats, regarder, faire un vrai travail de fond, donc finalement, regarder les clauses une par une, et vérifier si ces clauses étaient d'une part légales, d'autre part équilibrées, pour les formations musicales que donc, je représentais avec l'avocat qui m'a formée. Donc on s'est aperçu de beaucoup de problèmes, d'illégalité et encore une fois de difficultés dans l'exécution des contrats, tout simplement, mais aussi dans ce modèle qu'évoquait Agathe, qui est la location de partitions d'œuvres du domaine public, ce qui n'est pas interdit, parce qu'on parle non pas de l'œuvre, mais d'un objet qui est la partition, donc on a le droit de louer des œuvres du domaine public, mais on avait des ajouts, beaucoup de problèmes qui aboutissaient à des surcoûts, qui aboutissent toujours à des surcoûts, que subissent donc les formations musicales permanentes. Donc les négociations collectives se sont mises en place entre représentants des formations musicales et représentants des éditeurs de partitions, qui ont donc abouti à une première étape que l'on salue, qui est la signature d'une charte de bonnes pratiques entre formation musicale et éditeur de partition, et qui vient, disons, constituer une première étape, donc résoudre certaines difficultés qui existent entre ces deux parties, et notamment des difficultés relatives à ce qu'évoquait Agathe, qui est l'état des matériels. Mais cette charte ne résout pas les problèmes relatifs au surcoût, clairement pas, même si elle l'aborde, elle ne les résout pas. Et donc, nous sommes toujours en discussion avec les éditeurs de partition pour essayer de résoudre ces problèmes-là et donc d'aller vers quelque chose de cohérent par rapport au contexte économique qu'est le contexte actuel des formations musicales. Alors, du coup, tout ce contexte-là et ce constat juridique a alimenté l'idée de devenir un peu plus indépendant de ces éditeurs traditionnels et donc de créer une structure qui donc, serait portée au départ par les représentants des formations musicales, en l'occurrence l'Association française des orchestres, qui a commencé avec un premier pas au Forum des orchestres en octobre dernier, en créant un atelier, à l'occasion duquel on a établi ce que je pourrais appeler un plan d'action, donc en plusieurs étapes, pour aboutir à la création de cette fameuse structure, qui aujourd'hui n'est pas évidemment définie dans ce qu'elle serait au sens juridique du terme, c'est-à-dire est-ce qu'on parle d'une coopérative, donc d'une société, ou est-ce qu'on parle d'une association, tout ça dépendra de beaucoup de choses, et on n'a pas la réponse tout de suite, puisqu'on a besoin avant de passer certaines étapes qu'on a identifiées, dont la première étant, et qui est en cours, le recueil de données auprès des formations musicales par le biais des bibliothécaires, justement, donc de données relatives au répertoire qui pourraient nous intéresser. Et pour rentrer donc dans le concret, dans ce que ferait cette structure et comment elle le ferait, eh bien ce serait de faire appel à des graveurs, qu'évidemment nous rémunérerions, pour donc, créer ces partitions, d'œuvres du domaine public évidemment, puisqu'au départ on ne peut pas, aller vers du domaine protégé puisqu'on n'a pas les autorisations des ayants droit, mais pourquoi pas, plus tard, nous étendre à ça. En tout cas, on partirait d'œuvres du domaine public. On demanderait aux copistes, aux graveurs et aux copistes de créer ces partitions avec une implication de l'ensemble des parties prenantes de cette chaîne, à savoir bien, les copistes eux-mêmes, les graveurs eux-mêmes plutôt, mais aussi les personnes qui se situent au bout de la chaîne, c'est-à-dire les utilisateurs, musiciens et chefs d'orchestre, pour avoir notre propre répertoire de partitions d'œuvres du domaine public et le communiquer soit entre formations musicales, soit carrément un public beaucoup plus large. Ça, c'est pareil, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend du type de structure qu'on va avoir, du définancement, pour être très clair. Nous en sommes là pour être pour arriver à l'état actuel du projet. Nous en sommes à recueillir les données, ce qui est en cours et qui devrait se poursuivre d'ici les semaines qui suivent. Et nous sommes également en cours de recherche de financement pour savoir un petit peu vers quoi on se dirige et vers quel type de partage on se dirige. Donc, si vous avez des idées, des suggestions, nous sommes tout à fait à l'écoute, preneurs et preneuses de tout ça. Merci beaucoup.
Et je voulais juste rajouter un petit mot sur, justement, puisqu'on est là aussi pour parler de partage, de données, d'informations, de partitions, en l'occurrence en ce qui nous concerne. En fait, nous, dans le groupe de travail qui se penche sur ce projet, on a vraiment à cœur de se souvenir des missions de service public de l'orchestre. C'est quelque chose qui nous parle, même si on ne fait pas forcément partie de l'imaginaire du service public, on en fait partie. Et donc de proposer d'ouvrir ce fonds de partition à des conservatoires, à des structures d'enseignement, de direction, de choses comme ça, on pourrait à la fois faire rayonner nos orchestres, à la fois proposer du contenu scientifiquement approuvé et répondant aux besoins des musiciens professionnels d'aujourd'hui. Et voilà, ces choses-là, ce serait vraiment pour nous un idéal, à savoir que, évidemment, ça ne peut se faire qu'en étant financé, parce qu'on a une économie au niveau des graveurs à respecter, il faut payer ce travail-là, il faut qu'il soit bien fait, il faut qu'on sorte de l'idée de la rentabilité qui serait de mal faire le travail. C'est-à-dire qu'en fait, on est rentré dans un cycle où mal faire le travail, c'est ce qui est rentable aujourd'hui. Et on aimerait beaucoup, beaucoup sortir de ça, mais si jamais on n'arrive pas à obtenir les financements pour faire vivre ce projet-là dans cette idée-là, il faudra malheureusement qu'on se rabatte sur un système de services payants. Et je vous avoue qu'on serait ravis d'éviter ça. Donc si vous avez effectivement, comme le dit Pauline, des pistes à nous suggérer, n'hésitez pas. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Évidemment, on prend les questions après, vous avez vécu maintenant. Puis on va passer tout de suite à Marco, qui va nous présenter les solutions de partage et diffusion de partitions, pas tout le temps. côté notamment baroque, voilà, mais pas que, je pense.
Oui.
Voilà. Et je vais te laisser tout de suite la parole. Bonjour.
Merci de m'écouter. Non, je ne vais pas passer toutes les solutions des partages de la musique baroque, ça va être un petit peu beaucoup. Et en plus, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Et j'avoue que le titre de ma présentation a un petit peu évolué depuis hier, en fait, depuis toutes les réflexions que j'ai pu vous faire grâce aux interventions de ce jeu. Et en fait, aujourd'hui, je voulais vraiment prendre la casquette des bibliothécaires et vous parler de qu'est-ce que les bibliothèques font pour toutes les questions qu'on vient de poser ce jour-là. Et du coup, parler un petit peu de l'accès aux ressources numériques et de comment la bibliothéconomie, donc vraiment de toutes les bibliothèques, propose et a fait. En fait, les bibliothèques, ils ont beaucoup réfléchi à comment accéder aux ressources. C'est vraiment la mission finale des bibliothèques. Et les ressources numériques ont quand même bouleversé un petit peu le monde de bibliothèques. Et, en général, on peut penser que les ressources numériques, c'est des ressources qu'on sait qu'elles ne sont pas stables, elles ont changé les collections des bibliothèques. Si on était habitué à gérer les collections stables, les collections physiques, maintenant les bibliothèques sont plutôt des points d'accès aux ressources. Donc les bibliothécaires deviennent plutôt qu'un ménagère des collections, ils deviennent quelqu'un qui doit faire la médiation, de plus en plus, c'était déjà dans l'émission des bibliothèques, mais de médier et de permettre l'accès aux ressources. Et, pour tous les publics. Les bibliothèques ont un public très varié. En fait, nous, on est toujours à côté des chercheurs et à côté du public, et du grand public. Ça dépend de taille des bibliothèques, ça dépend des types de bibliothèques. Il y a la différence, il y a des bibliothèques de recherche, il y a des bibliothèques de lecture publique. Mais les bibliothèques, depuis toujours, font des liens entre la recherche et le public. Donc, c'est bien d'essayer de penser et de prendre ce que les bibliothèques ont déjà réfléchi et ont déjà produit sur ça. En général, on a beaucoup réfléchi sur la question des publics. On ne peut pas penser d'avoir toujours les mêmes outils pour des besoins différents. En fait, un public de chercheurs souvent cherche des données, ils cherchent des outils très différent par rapport à un public, un large public qui n'a pas les connaissances nécessaires pour accéder aux ressources qui sont proposées par la recherche. Et en plus, avec l'accès à Internet, l'accès à distance, maintenant, tout ce qu'on fait, tout ce que les chercheurs font, c'est sur Internet, c'est un accès, c'est libre. Et du coup, l'idée, c'est de rejoindre le public le plus large possible. Mais en général, c'est toujours bien dans les bibliothèques de viser son public, son propre public. Chaque bibliothèque a son public. La bibliothèque du centre de l'antique baroque a un public de gens qui viennent chercher sur l'antique baroque. Donc, penser toujours au public, c'est très important. Et notamment, la vision importante, c'est les signalements. Comment signaler ces ressources? Comment ces ressources peuvent être accessibles pour les gens. Et en fait, les bibliothèques ont des outils qui s'appellent les catalogues. Les bibliothèques, tout le monde connaît, c'est des outils qui sont très très connus par les grands publics, qu'ils accèdent par Internet au catalogue en ligne de la BNF, de Saint-Bélé et d'autres bibliothèques. C'est des outils plutôt simples à utiliser. Et l'idée de signaler les ressources numériques est venue aux bibliothécaires depuis quelques années. Ça pose plein de les métadonnées des ressources numériques, c'est des ressources qui bougent dans les temps, qu'il faut oublier, donc comment on va faire ça. La description, tous les standards de description qui ont été développés par la communauté des bibliothécaires, des archivistes, ne prend pas forcément en considération tous les critères juridiquement un petit peu flous de ressources numériques et d'accès aux ressources. La granularité de la description, du coup, qu'est-ce qu'on va décrire dans les signalements d'un catalogue de bibliothèque, la ressource ou la base des données ou le projet entier, c'est des choses qui vont être plutôt au choix de bibliothécaires ou de l'institution. Mais je pense que c'est vraiment important de penser que les bibliothèques peuvent aider la recherche à rendre accessibles ces ressources. L'autre chose sur laquelle les bibliothèques ont pensé, c'est les publics. En fait, on disait qu'il y a des publics différents. Et au CBL, on a un rapport très étroit avec les publics. On va faire les 40 ans bientôt. Et ça fait 40 ans qu'on accompagne beaucoup de publics différents dans la musique ancienne. Et la musique et le public a beaucoup changé dans 40 ans. Il y a 40 ans, c'était vraiment un public de chercheurs, des musiciens très très passionnés, très fermés dans leur monde. Aujourd'hui, la musique baroque est devenue beaucoup plus à l'avance. On la voit dans les grands théâtres, on la voit dans presque tous les conservateurs. Le public a changé. Et si à l'époque, on s'est concentré surtout sur le partage des données sur la musique baroque, donc le partage des catalogues, le partage de catalogues de sources, catalogues de discographies sur des compositeurs, sur des corpus de genre de musique baroque. De plus en plus, le public a changé. Il y a des musiciens de tous les niveaux qui viennent au CMBD pour chercher les partitions, pour accéder à la musique. Du coup, les CMBD, pour l'instant, a proposé différents types de solutions de partage de partition. Une, elle est grâce aux éditions. Donc, en fait, c'est dans le côté éditorial du CMBD, c'est la partie un petit peu commerciale du CMBD, mais on édite et on publie des partitions de musique baroque. Et il y a toute une série de partitions qui s'appelle Opéra numérique. Et c'est des partitions et des sets d'orchestre aussi, des opéras un peu moins connus et qui on aimerait bien faire résonner dans tous les théâtres, un petit peu comme Panthée de Philippe d'Orléans, qui va faire les futures régions, ou Ariane Bacchus, des Marins-Marais, c'est un œuvre de jeunesse des Marins-Marais, qui n'est pas très connu, mais plutôt connu pour la production de l'Orléans. Donc, c'est des partitions qui sont libres et service. Signaler ça dans un catalogue de bibliothèque est plutôt simple. Je vais signaler la ressource, la partition et indiquer où la retrouver, où les liens, les liens fixes. Il y a d'autres typologies de partage de partitions comme des bases de données qu'on a créées pour des corpus. Il y a une base de données qui s'appelle LADA, c'est les livres d'air des différents auteurs. On a choisi de éditer en notation moderne, on va dire, et critique tous les airs publiés par les frères Ballard, par la famille Ballard, qui étaient les éditeurs de Rouen dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et là, c'est une base de données où on peut naviguer et télécharger les partitions, signaler ça dans un catalogue de bibliothèques, c'est un petit peu plus complexe. Est-ce qu'on va signaler tous les airs? Est-ce qu'on va signaler la base de données? C'est des questions qu'on se pose, mais je pense que c'est une bonne direction pour, justement, comme je disais tout à l'heure, de médier entre la recherche et le public. Les bibliothèques sont là pour faire ça. Chaque bibliothèque avec son public. Du coup, on essaie de faire tout ça. Merci beaucoup. Je laisse la parole.
Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.
Et c'est sûr.
Merci.
Qui a pris le micro? On a eu Fabrice de la BNF qui vient nous présenter des questions de patrimoine autour des phonogrammes du domaine public.
Merci, bonjour à tous et merci encore pour l'invitation. Je vais essayer de faire vite pour laisser du temps aux échanges, et donc ne vous inquiétez pas si vous voyez des fois défiler des slides, c'est parce que j'aurais fait le choix de passer délibérément voilà, ces parties-là. Donc, à la BNF, nous avons une collection de phonogrammes relativement importante, plus d'1 500 000 documents sonores, tous supports confondus, et on est les héritiers d'une histoire institutionnelle très très riche. Je vais vous passer le détail de cette histoire, parce que sinon, enfin voilà, ça pourrait durer très longtemps. Il y a quelques dates quand même importantes pour nous. 1911, la première institution voilà, qui réussit sur un temps long à conserver des documents sonores en France et créer. Ce sont les Archives de la Parole, une association entre l'Université de la Sorbonne et la firme Pathé. Donc tout ça naît de l'inspiration d'un linguiste, Ferdinand Bruno, qui souhaitait créer un conservatoire de la parole. Très vite, dans ce fond, on va avoir aussi du chant, de la musique, et on va également avoir une distinction dont je vous parlerai tout à l'heure, entre les documents d'archives et les documents édités. Parce que dès le début, Pathé donne des disques édités de son catalogue, notamment de certaines de ses succursales au Caucase ou au Maghreb, et c'est des disques qui, pour certains, n'ont jamais été réédités. Donc voilà, dès le début de cette collection des Archives de la Parole, on a cette distinction. Et une autre date importante, 1925, la création d'une loi sur le dépôt légal des phonogrammes. On fêtait le centenaire cette année. Il faut attendre 1938 pour avoir une concrétisation de cette loi avec la création de la Phonothèque nationale, qui, elle, a la charge de dépôt légal des phonogrammes. Voilà, et bon, après, la Phonothèque va devenir un département de la Bibliothèque nationale, et aujourd'hui, donc, nous conservons ces fonds, et nous poursuivons la mission de dépôt légal des phonogrammes. Ces fonds historiques, Archives de la Parole et Phonothèque nationale, ont été inscrits l'année dernière au registre Mémoire du Monde de l'UNESCO. On conserve tout type de support, des supports mécaniques, donc pour le son en tout cas ça va du cylindre au CD en passant par les autres supports et aussi le son dématérialisé qui est un enjeu important pour nous aujourd'hui. Il n'y a pas encore de loi, enfin de décret d'application sur le dépôt légal numérique, mais nous sommes dans une expérimentation, nous travaillons actuellement avec Idol et Universal pour expérimenter un dépôt légal du son dématérialisé. Donc voilà, tout type de support. Et au niveau du département, c'est la même chose. On retrouve aussi ces différents supports, ce qui permet pour les chercheurs d'avoir... on a une collection qui parle à un grand nombre de chercheurs de différents champs disciplinaires, parce qu'en fait, je parle pour la collection sonore, on a tout un tas d'angles d'approche. C'est ce qui fait qu'on peut avoir à la fois un chercheur associé qui travaille sur l'histoire des fonds sonores bretons à la BNF et puis un ludomusicologue qui va s'intéresser à la musique de jeux vidéo. Donc, dans cette collection sonore, je vous en ai parlé, il y a une distinction très importante au niveau aussi des droits et de ce qu'on peut faire en termes de valorisation donc entre archives et documents édités, oralité, musique et chant. Au niveau de nos archives sonores, on les signale sur le site Archives des manuscrits. Donc voilà, dans les archives, c'est pareil, on retrouve vraiment une grande diversité de documents. Pour ce qui concerne la musique, on a notamment des archives de compositeurs. Pardon. En 2027, on fêtera le centenaire Pierre-Henri, on a les archives de Pierre-Henri. On a Xenakis aussi, on a les chants d'oiseaux de Messiaen, bref, donc on a pas mal d'archives de compositeurs. J'ai pas dit quelque chose d'important, j'aurais dû le préciser en début de présentation. On a beaucoup parlé de partitions, donc les partitions à la BNF sont conservées au département de la musique, qui a la charge de toute la musique notée. Et voilà, et donc on travaille aussi avec eux parce que donc, le département de la musique s'ouvre aussi aux autres musiques, aux musiques populaires. Et donc voilà, on est en synergie. Pour les documents édités, on les signale au catalogue général. Donc on n'est pas sur les mêmes langages de description, je vous en parlerai rapidement après. Bon, la répartition par genre des documents édités, je vais passer. Je pourrais en parler avec vous plus tard. Lorsque je parle d'archives sonores, c'est très important pour nous. Je ne parle pas uniquement du document sonore. Les photographies, toutes les archives papier, toute la documentation, des cartes, des annotations, bien sûr, les annotations manuscrites sur les conditionnements. Tout ça constitue l'archive, dont le document sonore est le cœur. Mais donc, à la fois en termes d'archives et de témoignages, c'est essentiel de conserver dans de bonnes conditions ces documents, cette documentation. Et elle nous sert bien évidemment aussi à décrire le document au catalogue, le document sonore. On a quatre modes d'entrée des documents à la BNF, donc j'en ai parlé, le dépôt légal. On fait aussi des acquisitions pour compléter notre collection. Donc pour les fonds contemporains, on acquiert essentiellement des éditions étrangères, donc des labels qui ne sont pas soumis au dépôt légal. Et puis pour les fonds anciens, eh bien là, on essaie de compléter notre collection en comblant des manques. Nous recevons aussi des dons. Et enfin, depuis l'origine, depuis les archives de la parole, nous produisons nos propres archives sonores. Donc les archives de la parole, c'était vraiment leur raison d'être, c'était d'enregistrer hein, concrètement des gens, soit dans le laboratoire de la Sorbonne, soit lors de collectes de terrain. La Phonothèque nationale a poursuivi cette mission avec de nombreux entretiens, et la BNF aujourd'hui continue à constituer des archives sonores à travers toutes les conférences déjà qui sont organisées à la BNF, et puis un travail de valorisation que j'évoquerai en fin de présentation. Comment diffuser, communiquer, valoriser les documents sonores tout en respectant le droit? Donc là, nous, on constate en fait qu'on est une sorte de... On est entre les droits d'auteur, les droits voisins, la propriété intellectuelle. Donc ça, en tant qu'établissement culturel national, on se doit d'être exemplaire sur ce plan-là. Et en même temps, dans nos missions, on a clairement aussi une mission de communication, d'ouverture, de partage de l'information à des fins de patrimoine et de recherche. Donc voilà, il y a une tension, on est au milieu de cette double injonction et nous devons valoriser ces documents tout en respectant le droit. Alors pour les documents édités, on a deux exceptions qui s'appliquent, l'exception dépôt légal qui concerne les documents déposés. Donc là, ça nous permet de diffuser dans nos emprises sur des postes dédiés les documents du dépôt légal. Et on a l'exception bibliothèque pour les documents édités mais qui n'ont pas été déposés au titre du dépôt légal, qui nous ont été donnés ou que nous avons achetés. Donc là, nous pouvons aussi communiquer ces documents dans nos emprises. Après, lorsqu'on veut mettre en ligne sur notre bibliothèque numérique Gallica ces documents sonores édités, il nous suffit, alors même si parfois ça peut être un peu complexe, mais en fait on doit respecter tout simplement les durées préconisées par les textes, et donc voilà, en appliquant aussi les périodes, alors j'ai plus le nom en tête, mais durant la guerre, c'est... Voilà, c'est ça. J'en parlerai là après. On a un enjeu d'identification de ces documents sonores. Ceux du domaine public pour les valoriser sur Gallica. Pour les archives sonores, là c'est beaucoup plus complexe. Joséphine ce matin a parlé notamment de documents issus d'enquêtes ethno-musicologiques. C'est le cas pour bon nombre d'archives sonores qu'on conserve à la BNF. On a beaucoup d'ethnomusicologie, on a beaucoup d'enquêtes linguistiques également et tout un tas de documents pour lesquels, là, on n'a pas eu forcément de formalisation des différents interprètes ou locuteurs enregistrés pour donner leur accord, en fait, tout simplement leur autorisation pour ne serait-ce qu'une communication en salle de recherche ou pour même une reproduction, une numérisation à des fins de conservation. Donc, ce qui concerne les archives sonores, les droits patrimoniaux qui courent 70 ans à compter de la production. Et donc, dans ces droits patrimoniaux, on a notamment le droit de reproduction. Et donc, dans le droit de reproduction, on a la numérisation. Et donc, comment faire lorsqu'on a une bande magnétique qui se dégrade des années 60, que quelqu'un nous donne, qu'on est censé devoir numériser pour la conserver, et en même temps, voilà, on doit procéder à des arbitrages, le faire aussi avec du bon sens, hein, il ne faut pas non plus devenir paranoïaque, mais en même temps, il faut être quand même très soucieux du respect de ces droits. Et donc, pour les archives sonores, aujourd'hui, les chercheurs, et depuis quand même pas mal d'années, sont bien au fait maintenant du recueil du consentement et de la nécessité de formaliser les choses. Et donc, nous, c'est aussi lorsqu'on instruit des propositions de dons aujourd'hui, on est très, très vigilant sur ce plan, et donc on demande systématiquement aux personnes qui souhaitent nous donner leurs documents s'ils ont bien tous les documents nécessaires et s'ils ont veillé à recueillir ces consentements. Ces contraintes, en tout cas ces obligations juridiques, impliquent donc des modalités de communication, de consultation et de réutilisation qui sont diverses à la BNF et qui varient en fonction du statut juridique des documents. Donc pour les documents du domaine public ou ceux pour lesquels on a eu des cessions de droit, on peut les mettre sur Gallica. Donc Gallica, c'est pour tous les publics, c'est des corpus accessibles en ligne. On a Gallica Intramuros, donc en fait, ça concerne des documents sous droit qui ont été numérisés. Et là, cette version de Gallica, qui intègre du coup beaucoup plus de documents sonores, est consultable uniquement dans les emprises de la BNF. Et puis on a des postes audiovisuels pour certains documents un peu complexes qui n'ont pas encore été versés dans Gallica Intramuros. Et donc ça aussi, c'est en salle de recherche. Alors pour la consultation, c'est la même chose en fait. On a des corpus ouverts et accessibles à tous les chercheurs et professionnels en salle de recherche. Ils réservent les documents et ils peuvent y accéder. On a certains documents ou corpus soumis à information du donateur ou des ayants droit. Là, c'est moins des fins de contrôle que pour avoir une idée de ce qui intéresse le chercheur. Donc, lorsqu'on a un compositeur ou ses ayants droit qui nous donne ses archives, parfois il souhaite que lorsque le fonds est demandé en consultation, il souhaite être informé et avoir le contact en fait de la personne qui s'intéresse à ces documents pour pouvoir tout simplement échanger avec le chercheur et peut-être aussi, et très souvent d'ailleurs, c'est ce qui se passe, l'aider ou l'accompagner dans ses recherches. Et puis enfin, on a une dernière catégorie où là, on a des documents ou des corpus soumis à l'autorisation du département et des ayants droit. Là, ça concerne, alors c'est pas la majorité, hein, mais il y en a quelques-uns, ça concerne des contenus plus sensibles, des documents qui n'ont pas été anonymisés ou qui contiennent des données personnelles. C'est plutôt, et même clairement, là, ça concerne des corpus oraux, issus d'enquêtes, et donc c'est moins la musique. Pour les modalités de réutilisation, je vais passer rapidement, il me reste combien de temps? 5 minutes, ok, c'est bon. Pour la numérisation, alors juste un mot, là je ne vais pas vous détailler tout le schéma, mais on a plusieurs filières. Ce qui est important, c'est les trois critères. On a trois critères pour envoyer des documents en numérisation. Déjà, les documents qu'on a identifiés comme étant du domaine public, qu'on veut valoriser sur Gallica, on doit les numériser pour les mettre en ligne. On a aussi la fragilité des supports. Donc, j'ai parlé de bandes magnétiques, de cassettes audio, donc ça aussi, c'est un critère objectif. On doit numériser d'urgence pour conserver. Et puis enfin, troisième critère, c'est tout simplement les demandes de chercheurs. Numériser coûte cher. Tous les documents sonores conservés à la BNF sont loin d'être numérisés en totalité. Et donc, lorsqu'on a des demandes de chercheurs en salle ou qui viennent de nos chercheurs associés, eh bien, c'est pareil, on fait des plans de numérisation et on prépare ces lots pour après pouvoir les donner en consultation de manière dématérialisée. Au niveau des formats, on numérise au format web et on a toujours deux copies. On a une copie brute droite et puis on a une copie avec restauration. Notamment lorsqu'on va aller sur Gallica, mais même pour des demandes de chercheurs, on essaie d'avoir une restauration lorsque c'est possible, mais la copie droite est indispensable. On produit des métadonnées suite à cette numérisation, et puis on met une sorte de tatouage, de marque, de marquage sur le fichier pour bien l'identifier comme étant un fichier issu d'une numérisation BNF. Au niveau des valorisations, la première des valorisations, donc ça a été dit, c'est le signalement, et je suis tout à fait d'accord en fait. Alors si on ne signale pas nos documents, ils sont invisibles. Donc ça c'est une fiche de Ferdinand Bruno qui, c'est un premier signalement et qui nous a été après au moment de... Alors moi j'étais pas là, mais au moment d'informatisation, il y a des décennies, c'était très utile. On a déjà sur ces documents papier, sur ces fiches, des informations très intéressantes, et on a même un texte et une transcription. Mais aujourd'hui, la BNF travaille sur un projet qui s'appelle Noémie, pour nouer les œuvres, les expressions, les manifestations et les items. C'est un nom un peu barbare, mais en gros, c'est une démarche de l'établissement pour être en accord avec les évolutions liées au web sémantique, aux nouvelles normes de catalogage et aux nouveaux formats aussi qui permettront une meilleure visibilité des catalogues sur Internet. Donc voilà, ça c'est un petit schéma, mais je vais passer vite. On valorise sur Gallica, je l'ai dit. Alors, lorsqu'on valorise sur Gallica, on n'est pas expert de tout, nous ne sommes pas musicologues dans le service. Nous avons nous avons une expertise sur l'édition phonographique. On a souvent recours, et c'est toujours un plaisir, de travailler avec les chercheurs pour aussi, eux, leur donner une vitrine et qu'ils puissent aussi... s'adresser au grand public à travers Gallica, qui est vraiment un site grand public. Et donc, très souvent, on peut avoir des billets de blog et de la valorisation sur Gallica qu'on va rédiger en partenariat avec des chercheurs ou même qui seront rédigés par des chercheurs eux-mêmes. On organise des événements divers et variés. Et un récent avec notamment Joséphine était présente sur les humanités numériques et les musiques traditionnelles. La question de la pérennité des supports avait été évoquée, enfin pas des supports, mais en l'occurrence c'était la pérennité des sites web de musique traditionnelle et d'ethnomusicologie. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, on crée nos propres archives. Depuis 2012, on mène des entretiens autour de l'édition phonographique pour documenter cette histoire méconnue. On connaît l'histoire très souvent des musiciens, des artistes, on connaît moins l'histoire des créateurs de labels, des producteurs, des ingénieurs du son. Et donc, on fait ce travail et on continue à le faire. Et c'est un travail qui, d'ailleurs, est réutilisé très souvent. Donc, tout ça est sur Gallica. Je crois qu'il y a plus de 45 entretiens sur Gallica. Ça, je passe. Ce sera trop long. Alors, dans nos perspectives, on a l'adaptation de nos chaînes d'entrée. Aujourd'hui, on va de plus en plus nous déposer des corpus nous donner des corpus sous forme dématérialisée. Donc on doit s'adapter, définir des chaînes d'entrée avec des grilles, des formats de description bien normalisés. On doit structurer, rassembler des métadonnées, les valider pour que ça puisse être archivé de manière pérenne dans notre magasin numérique. Et puis après, les signaler, soit au catalogue général, soit sur archiver manuscrit. Tout ça demande du temps. Et je parlais tout à l'heure de formalisation juridique. En fait, dans cette chaîne d'entrée-là numérique, ADDN, donc, on ne peut pas, on ne pourra pas entrer un corpus ou un document si on n'a pas un document papier, enfin un texte, là, un PDF ou autre, contractuel, voilà, ou quelque chose qui va un peu au moins garantir une traçabilité du don, par exemple, ou même formaliser clairement les différents consentements, les modalités d'utilisation accordées, etc. Donc voilà, on formalise aujourd'hui, mais on a du rétrospectif qui, là, n'a pas un statut juridique toujours clair. Autre exemple de projet et d'évolution, c'est la data visualisation des œuvres musicales. Donc ça intéressera beaucoup les ethnomusicologues. Pour l'instant, il y a encore un prisme musique classique occidentale, mais voilà, on a fait remonter notre souhait de rendre visible l'ensemble des musiques. C'est lié en fait là du catalogage pur et simple, c'est-à-dire que pour la musique classique, on a des titres uniformes musicaux qui décrivent les œuvres, et en fait, c'est une pratique qui ne concernait que la musique notée. Et donc, les musiques savantes non notées, ou en tout cas les musiques traditionnelles, n'avaient pas ce type de description au catalogue, et donc, n'ont pas été prises en compte dans cet outil. Donc on a fait remonter le sujet, mais en tout cas, c'est un très bon outil de découvrabilité des collections. Ça, je vais passer vite. Et comme on parlait du domaine public, donc là, il y a un projet qui n'est pas en cours, qui n'a pas été lancé, mais que nous avons soumis, et qui, j'espère, sera validé, parce que ça me semble être un projet vraiment important, c'est d'essayer de travailler sur un outil, développer un outil donc avec bien sûr de l'IA pour essayer de nous aider à identifier les phonogrammes du domaine public. Je ne parle pas des œuvres ou des auteurs tombés ou élevés dans le domaine public, je parle bien des documents sonores, des disques pour lesquels s'appliquent des droits voisins. Et donc en fait, c'est important pour nous, lorsqu'on veut savoir si on peut mettre en ligne un disque, c'est aussi d'avoir vraiment une vision claire sur l'ensemble des droits afférents à ce document. Et donc voilà, je ne vais pas détailler le schéma, mais l'idée serait d'avoir un agent d'IA, un outil, qui puisse croiser les données de la BNF, des données de différents catalogues. Là, j'ai mis des exemples, Wikidata, Wikipédia, ISNI, IDRF, Discogs, il y a plein d'infos, des catalogues d'institutions étrangères. Bref, réussir à agréger ces données pour extraire pour structurer des métadonnées qui pourraient éventuellement aussi enrichir notre catalogue après vérification, parce que on n'a pas toujours, nous, la date d'édition du disque, et parce que on n'a pas les catalogues papier, ça ne figure pas sur l'étiquette. Bref, donc on pourrait à la fois enrichir notre catalogue, enrichir celui des autres, hein, parce que c'est un circuit, donc ça pourrait aussi être intéressant pour d'autres institutions. Et outre l'enrichissement du catalogue, on pourrait aussi avoir une sorte d'automatisation sous forme de liste ou de remontée sur des documents qui sont identifiés comme étant du domaine public. Et donc tout ça nous permettrait d'avoir en fait plus de perspectives et une stratégie un peu mieux définie pour nos plans de numérisation. Parce que pour l'instant, donc, l'identification de ces œuvres, on l'a sur nous-mêmes lorsqu'on a le temps, c'est très chronophage, et donc en fait, on le fait avec les moyens du bord. On fait de la veille, hein, bien sûr, pour ça, mais voilà, ça reste une action humaine et individuelle à l'échelle d'un service. Et donc, ce serait un outil comme celui-là serait d'une grande aide pour nous et permettrait de valoriser encore plus. Là, j'ai parlé d'outils, je termine promis. En fait, la valorisation, ça passe quand même par les partenariats avec les chercheurs. Et en fait, voilà, on a un projet avec le King's College où on va mettre en ligne le congrès de musique arabe du Caire de 1932. L'idée, c'est de créer du contenu et de contextualiser scientifiquement ces documents. Et donc, là encore, on ne peut pas le faire seul. On est obligé de le faire avec les chercheurs. Et eux, voilà, produisent du discours sur ces documents patrimoniaux anciens. Et donc, il y a des podcasts réalisés qui seront aussi versés dans Gallica et qui permettront de valoriser un peu autrement ces documents.
Les annotations que font les musiciens lors des répétitions des concerts, voire des chefs d'orchestre, qui sont en fait une production d'archives assez monumentale, qui existe dans tous les orchestres. Si vous avez des projets de recherche là-dessus, n'hésitez pas à tout contacter. Et malheureusement, quand on loue des partitions sous format numérique, le texte des partitions repart, c'est-à-dire disparaît à l'issue du concert. Or, pour garder un calque numérique avec des annotations sans musique pour les lire, bon courage. Donc jusqu'à maintenant, ça s'est prouvé peu utilisable dans le contexte qui est le nôtre, notamment pour des questions de blocage de l'éditeur, c'est bon par rapport aux besoins.
Peut-être. Je voulais juste ajouter que c'est une question que beaucoup de bibliothécaires se posent, et il y a maintenant une grande étude de YAM, International Association of Music Library, qui va vraiment étudier ça sur 3 années, parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde s'attendait que les orchestres passaient aux partitions numériques, aux tablettes, etc. Et ça vient pas, ça arrive pas, ça arrive pas. Même s'il y a plusieurs solutions de partage, plusieurs propriétaires des éditeurs, des applis. Mais du coup, il y a ce groupe d'études qui vient se former et qui va produire, j'espère, quelque chose.
Oui, bonjour, j'ai une question aussi pour la FOU, enfin le projet de l'Association française des orchestres. Pour être universitaire, avoir refait et fait des maquettes d'enseignement et de formation tous les 3 ans, depuis pas mal d'années maintenant, c'était évidemment les classes de gravure musicale, elles se sont ouvertes, puis elles se sont fermées. Est-ce que là, il y a du travail qui est fait justement parce que ça nécessite un vivier. Enfin, si on imagine que ce projet peut aller à terme, il faut des graveurs bien formés, il faut des gens qui font des belles partitions. On sait comment les former. Nous, on les a formés déjà, et puis ils ont été vers d'autres horizons parce qu'il n'y a pas eu les débouchés qu'on pouvait espérer, dont ils ne sont jamais arrivés. Donc est-ce que ça, c'est pris en compte ?
C'est une vraie question. On a discuté il n'y a pas très longtemps avec Jean-Paul Séché, qui est le Archipel, pour ceux qui connaissent, donc une maison d'édition, qui nous expliquait que c'est effectivement compliqué de trouver des bons graveurs, parce que en fait, le manque de projets fait que les classes ferment petit à petit, que les personnes qui aimeraient faire ce métier ne trouvent plus de travail. Et ça, c'est aussi lié, je pense, peut-être que je m'avance et peut-être que Pauline me corrigera, mais je pense que c'est aussi lié à une forme d'économie des éditeurs qui ont été petit à petit rachetés par des multinationales, avec on l'a vu, un fonds sans cesse réutilisé pour des questions de rentabilité. Nous, on note par exemple que, alors aujourd'hui, ils sont plus tolérants sur le fait de nous renvoyer des matériels en meilleur état quand on leur signale que l'état n'est pas utilisable. Donc ils vont réimprimer à neuf, sauf qu'ils vont réimprimer en fait des photocopies. Les matrices ne sont jamais retravaillées. Et maintenant qu'on a du recul sur la numérisation, nous on a commencé à numériser dans les années 2010 en gros. On a du recul sur les scans qu'on avait à l'époque et les scans qu'on a aujourd'hui. On le voit bien, en fait, que les matrices se détériorent petit à petit avec l'effet photocopie. Donc, effectivement, on a un vrai besoin au niveau de la gravure. Là, dans l'écriture du projet qui est en cours en ce moment avec le groupe de travail, on va contacter les graveurs. Les orchestres ont un petit vivier, notamment parfois d'anciens bibliothécaires d'orchestre qui sont devenus graveurs, donc qui connaissent bien nos problématiques et nos besoins. Donc, c'est par eux qu'on va commencer parce que c'est eux qu'on connaît. Mais si vous connaissez des graveurs... travail, on va évidemment les contacter. Encore une fois, on est à l'étape du projet et de l'écriture du projet. Donc il faut qu'on les contacte le plus possible, qu'on leur demande leur tarif. L'étude de faisabilité, elle est...
Je pense qu'à l'intérieur du projet, enfin, un lien avec l'enseignement supérieur et la recherche doit être présent. Oui, enfin, ça doit être affiché pour oui. Bien anticiper ce besoin-là, si oui. Jamais...
Et non seulement au niveau de la gravure, mais aussi au niveau de la musicologie, parce que c'est des partitions qu'on va faire relire. Et donc, bien évidemment, alors comme j'ai peut-être oublié de le préciser, on en discute avec Sandrine juste avant, mais on est vraiment dans une petite niche, nous, et on a extrêmement faim de pont vers l'extérieur, vers vous, vers la recherche, vers plein d'autres choses, et c'est aussi pour ça qu'on vient se déplacer dans des moments comme ça, parce que c'est important pour connaître les différents débouchés.
Et juste un dernier point, pour éviter d'être dans une relation, enfin, il faut trouver un interlocuteur qui soit à la hauteur de l'info. Il ne faut pas aller à la Sorbonne, pour le dire simplement. Hein, non, mais donc il faut un consortium, il faut des gens qui discutent. Hein, ce n'est pas un master qu'on va aller chercher, et voilà. Il ne faut pas que ça se passe comme ça.
Quel conseil justement vous pouvez nous donner, parce qu'on a besoin qu'on soit entendu beaucoup plus haut, même peut-être côté ministère, parce que c'est quelque chose qui touche à toute la culture en fait.
Tu parles de quel ministère ?
De la culture, de la recherche.
Ça, je pense que l'organisation au niveau de l'info est légitime. Ça, je pense que ce sera entendu du côté du ministère de la Culture. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur, je vais reparler du Manum. Je ne vois pas d'autres consortiums qui soient équivalents. Donc c'est Musica 2, Humanum, l'adresse, le site web.
Est-ce que les ministères écoutent ?
Non, c'était juste pour rebondir rapidement sur les graveurs et les éditeurs. Parce que maintenant, on voit dans le domaine de la création, et donc des fois, il y a des commandes de compositeurs pour des orchestres, et les éditeurs demandent même parfois aux compositeurs de produire le matériel, parce qu'on arrive, on va.
Moi, j'ai déjà travaillé avec un compositeur qui avait un éditeur sans nommer Universal.
Et qui ne faisait pas son travail et qui a travaillé tout un week-end de Native Pack pour qu'on ait le matériel à temps pour la pétition.
C'est tout le temps, ça va.
Il a pu survivre.
Bravo pour votre projet de coopérative. On a bien entendu que vous dépendez encore en fait, de financement pour savoir quel sera le mode d'accès. Et j'ai entendu qu'il y a une envie forte de faire profiter voilà, au maximum. Et donc, on est dans des journées données ouvertes, et donc ce qui serait idéal, ce serait tout simplement de publier en licence libre ces choses-là. Alors, quand on parle de financement, je comprends qu'il y a déjà une mutualisation, parce qu'il y a déjà un budget qui est très important de la part des différents orchestres. Et est-ce qu'il y a aussi, est-ce qu'il pourrait y avoir des appels même de crowdsourcing ou de, enfin, de, il pourrait y avoir des appels et l'impact, vous avez dit, oh, on pourrait les donner aux écoles de musique, mais l'impact, si sans licence libre, est bien plus grand, parce que ça pourrait être à tout votre public, enfin, ça pourrait être, ne pas passer dans une logique où on filtre les accès, et ça coûte beaucoup aussi d'argent de faire cela, mais donc, tout simplement, on a un projet, je veux dire, qui participe à la valorisation de votre travail et que d'autres orchestres peuvent voir. Voilà. Et une idée parmi d'autres, c'est que oui, ça coûte de l'argent et donc il faut des gens qui payent cela. Peut-être que des nouveaux orchestres pourraient être invités à joindre les premiers parce que les personnes qui payent pourraient aider à avoir évidemment leur mot à dire sur quels sont les mots et les œuvres qui seront gravés. Donc vous avez un très fort label de qualité à avoir et je trouve ça fantastique effectivement d'avoir des données libres, ouvertes, avec le degré de qualité que vous avez.
Je peux juste ajouter une petite méchanceté. On parle très facilement de sciences ouvertes ici, mais ici on est dans le milieu académique. Et méfiez-vous du ministère de la Culture. Merci, je vais rebondir là-dessus. Depuis hier, depuis ce matin, surtout, on parle beaucoup de commun, etc. Sauf qu'en fait, ce qu'on dit quand on parle de sciences ouvertes, etc., on ne parle pas de commun, on parle d'utilisation commune de ressources qui sont mises à disposition, au mieux par le choix des individus, au pire par acceptation, ce qu'on voyait ce matin. Même Simono qui disait que ben, on arrive à les faire accepter au final, etc. Et tout ça est lié au système de reconnaissance qui est aujourd'hui le seul qui existe, qui est le système des droits d'auteur en fait, qui est lié à un individu. Par exemple, on parlait des fonds d'ethnomusicologie, etc. Moi je travaille là-dessus, on a des gros problèmes avec ça parce que même pour être dans le domaine public, il faut d'abord que ça ait été reconnu comme appartenant à quelqu'un qui ensuite le met à disposition. Or, les fonds de musique traditionnelle, ils appartiennent à personne, ils appartiennent à tout le monde, en fait. Enfin, parce qu'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas d'œuvre, en fait, en soi, parce qu'elles sont modifiées à chaque fois, c'est le principe même de ces musiques-là. Il n'y a pas d'auteur, puisque chaque personne qui fait une itération de cette chanson-là est l'auteur d'une variation, etc. Et il n'y a pas de date, puisqu'on n'a pas de première occurrence. Enfin, on peut en avoir dans des opérettes ou des choses comme ça, mais il y a certains auteurs de ces opérettes qui ont même dit qu'ils avaient entendu ces chansons-là, ou qui sont reconnus comme étant compositeurs de ces choses-là, qui ont dit qu'ils avaient entendu en allant chercher leurs œufs au marché le matin. Donc, en fait, il y a un vide juridique là qui n'existe pas. Et pour moi, si on veut aller vraiment plus loin dans cette question de la censure, c'est le ministère de l'Écriture a beaucoup à réfléchir là-dessus, je pense. Parce que c'est la même chose pour la création. On parle de création uniquement quand on parle de propriété d'un objet à un individu, en fait. Donc socialement, pour moi, on est obligé de se poser la question de la validité ou de la loi, enfin de remettre en cause cette question des droits d'auteur, non pas pour l'évacuer, pas du tout, au contraire, pour travailler sur une économie de la reconnaissance qui tienne compte pas forcément d'un objet. Parce qu'en fait, là, on parle de partition, d'enregistrement, c'est pas ça la musique. Ce sont des artefacts qui représentent et qui permettent la transmission. Voilà. Et du coup, si on ne remet pas en cause, ou en tout cas, si on ne réfléchit pas différemment ce système-là, ben, en fait, on est mort, quoi. Normalement, on ne pourra plus rien faire du tout. Et ça sert ni les artistes, qui du coup, ni les artistes, ni les chercheurs, en l'occurrence, qui n'ont plus la possibilité de diffuser ou de faire diffuser leur travail, qui ne sont plus entendus. C'est ce qu'on disait par rapport à la BNF aussi. En fait, on a des fonds qu'on ne peut pas numériser, qu'on n'a pas le droit de diffuser. Et ça ne sert plus non plus le grand public ou les gens en général, qu'on n'a pas accès à la connaissance, au savoir et aux informations. Quoi.
Ouais. J'ai quand même expliqué, par contre, qu'on fait faire preuve de bon sens. En fait, j'ai un peu nuancé. C'est effectivement pour les archives, pour tout ce qui n'est pas encadré par la partie édition, etc. On a quand même, nous, ce qui est important, c'est la date de production du document. Donc on a déjà un critère là, objectif, avec une durée définie. Après, effectivement, là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est qu'est-ce qui est de l'ordre de la, dans l'interprétation de la création personnelle. Enfin, donc là, on entre dans des considérations où effectivement, pour les musiques ou les œuvres traditionnelles, bon, c'est complexe. Nous, ce qui est important pour nous, en tout cas, c'est que pour des enregistrements d'air culturel qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas bien, là, systématiquement, lorsqu'on veut valoriser un corpus ou l'ouvrir, le rendre accessible, on travaille avec des chercheurs qui déjà vont pouvoir vraiment décrire le document afin de valoriser à terme, et puis aussi se faire le relais de cette valorisation dans les pays concernés ou dans les zones, les territoires concernés. Autre point important que j'ai oublié tout à l'heure, sur les notices de la PNL, sur ce que tu évoquais sur la description et le signalement, nous, nos notices sont sous licence étalable, en fait, elles sont complètement réutilisables, exportables. Donc toutes ces métadonnées, en fait, dans les différents formats, sont réutilisables. Donc on est dans cette démarche-là, et effectivement, pour les archives sonores, on est obligé, nous, d'avoir une approche presque au cas par cas, en fait. Et donc là, c'était la propriété intellectuelle, il y a la propriété physique des documents. Et donc là, c'est dans la relation avec le collecteur et c'est des choses aussi qui se font avec la personne qui nous donne. Parce qu'elle a enregistré, elle avait noué ce lien-là avec les gens enregistrés. Et dans les années 60-70, Internet n'existait pas. Donc même si le consentement avait été formalisé, il n'aurait pas pu être formulé pour une utilisation en ligne à destination du monde entier. Donc en fait, ça a des limites aussi, cette histoire de formalisation du consentement et des autorisations. Donc il faut avoir une approche fine et quand même pas non plus fermer les campus, mais en tout cas nous on peut pas non plus complètement tout ouvrir, mais et pendant très longtemps, enfin je vous rassure, on a numérisé justement à des fins de conservation toutes ces bandes magnétiques pour quand même pouvoir les communiquer vraiment en salle de recherche. On a l'exception recherche aussi qu'on peut activer. Donc moi, voilà, là où je pointais quelque chose de complexe, c'est quand on veut sortir de la salle de recherche et lorsqu'on veut l'ouvrir plus largement.
On va prendre une dernière question et après on laissera un peu de temps aux ateliers, aux discussions libres.
Merci, en tant que coordinateur du consortium musical de Manu, je serais ravi de discuter plus précisément d'un tel projet. Je pense qu'il est intéressant, mais on pourrait peut-être le démarrer en évitant tout reproche de double financement, c'est-à-dire en récupérant, pour commencer, les éditions de Debussy, Forest, Saint-Saëns, Lully, Rameau, c'est-à-dire tous les fichiers qui ont été réalisés par des musicologues qui ont été payés par l'État, qui ont bénéficié du soutien du ministère de la Culture à travers la Musica Gallica, et qui sont finalement commercialisés par Milodo, par Meron Reiter, etc. Et donc, si vous parlez de CNPV, et donc récupérer toutes ces partitions d'orchestre pour faire une première base gratuitement pour leur récupérer tous les fichiers qui ont été produits grâce à l'argent de l'État.
Je me permets simplement de mettre une petite nuance à ce que vous dites, parce qu'on a malheureusement des contraintes juridiques en droit de la concurrence qui nous empêchent de faire ça.
C'est pour ça
qu'on ne peut pas partir d'éditions réalisées et publiées par des éditeurs. On est obligé, c'est pour ça qu'on a justement mis en place cette idée de faire appel à nos propres graveurs.
Oui, et donc ce sera un double financement. Au niveau européen, c'est interdit. Vous ne pourriez pas
Absolument.
Avoir le moindre euro. Donc je ne sais pas si au niveau national, on peut faire deux fois la même autoroute.
Non, mais c'est une des raisons pour lesquelles... Enfin, on ne s'est pas dit qu'on ferait appel à des graveurs par plaisir, même si ce serait un plaisir de les faire travailler. Mais en tout cas, on a vraiment envisagé toutes les possibilités et la possibilité de partir d'édition réalisé par tous les éditeurs que vous m'avez cités est juridiquement très risqué.
Écoutez, merci beaucoup, merci pour les échanges, je pense qu'ils vont se prolonger.